In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Et si le mot du jour était anachronique ? Parce qu'aujourd'hui, c'est à un voyage dans le temps que je vous convie. Un retour à il y a plus d'un siècle, au temps des années folles. Le temps des chapeaux-cloches, des robes qui ont diablement raccourci, des boas, des casquettes à la Tom Shelby. Un temps où on roulait en Bugatti, en deux Dion-Bouton ou en Delahaye. Parce que l'invité du jour, Lou Ferreira, est sans doute née dans la mauvaise époque. Quand elle est entrée dans le studio, j'ai eu l'impression de me retrouver en ce 24 décembre 1921 dans le studio de la radio Tour Eiffel qui émettait pour la toute première fois. Bonjour, Lou Ferreira.
Bonjour, bonjour, merci.
Ma présentation est peut-être un peu excessive, mais suis-je si loin que ça de la vérité ?
Alors non seulement vous n'êtes pas loin de la vérité, pour la première raison, c'est que je ne suis pas du tout née à la bonne époque, mais ça c'est le cas de beaucoup de gens je pense. Mais la deuxième chose, c'est qu'en plus je crois être née encore davantage, enfin beaucoup plus loin encore dans le temps, c'est-à-dire la belle époque. Il y a les années folles et la belle époque.
La belle époque. Voilà. Merci d'avoir accepté mon invitation.
C'est moi.
Au-delà du côté un peu cliché, allons plus loin dans votre présentation. Vous êtes docteur en philosophie.
Oui.
Votre thèse a porté sur quoi ?
Alors sur l'esthétique et la philosophie de la provocation dans l'œuvre d'Oscar Wilde. Alors justement, à Paris 10 Nanterre, lorsque je l'ai proposé à mon directeur de thèse, François Laruelle, il n'a pas été surpris venant de moi, comme vous venez de le dire, de le suggérer, mais il s'est demandé, bon, Oscar Wilde en philosophie, avec la phénoménologie en plus, bon, qu'est-ce que ça vient faire là ? Et puis la première question qu'il m'a posée était celle-ci, qu'est-ce qui dans l'œuvre, ou qu'est-ce qui chez Oscar Wilde vous a profondément ému, atteinte au point de vouloir en faire une thèse de philosophie, je lui ai dit d'abord sa photographie quand il a 28 ans, 1882, Napoléon Séroni. Et à ce moment-là, je lui ai dit, lorsque je l'ai vu, j'ai su qu'il avait autre chose à me dire que son apparence. Et je me suis plongée dans plus d'une dizaine d'années d'écrits et de vie de cette œuvre, de cet auteur. Et je ne savais pas que j'allais autant découvrir sur lui. Une vraie profondeur, en tout cas.
Cette photo, vous pouvez la décrire ?
Oui, il a 28 ans, donc il s'apprête, à peu près. Et il rentre d'un long périple aux États-Unis où il est imposant, régnant, vous savez, avec les cheveux mi-longs, une photo en noir, bien sûr, en noir et blanc, que dis-je. Et puis, il a quelque chose de majestueux et d'imposant. Et je me suis dit, c'est étrange, j'ai l'impression qu'à travers ce regard, il a quelque chose, un défi à relever. Et les défis modifient nécessairement quelque chose après. Je me suis dit, ce n'est pas simplement une apparence. Qu'est-ce qu'il a à nous dire et à provoquer ? Lorsque j'ai lu son œuvre et lorsque j'ai connu, évidemment, comme beaucoup de gens, son existence, j'ai compris qu'il avait l'intention, dans cette photo, d'annoncer et sa tragédie personnelle, mais ses provocations, comme le titre de ma thèse.
Docteur en philosophie, ça on impose hein, quand même. Hein. Moi, je vous cache pas que je suis toujours fort impressionné d'être face à des personnes comme vous. Mais alors, vous avez dû être surprise parce que vous vous êtes rendu compte qu'un doctorat, en fait, ça conduisait à l'enseignement.
Oui.
C'est terrible, ça.
Alors, attendez, ça a été terrible pour moi, je dois l'avouer. Ce n'est de la faute de personne, c'est d'abord ma faute à moi, parce que c'est la passion qui m'a, et l'intérêt pour la philosophie et la phénoménologie qui m'a conduite à travailler sur Wilde. Mais lorsque, pour des raisons personnelles, j'ai été contrainte à quitter Paris et le quartier latin où je vivais depuis longtemps, je suis arrivée sur Angers et je me suis dit, bon, bah, je vais rencontrer des philosophes, vous voyez, je vais faire des salons littéraires, je vais créer des clubs de philosophie de pensée. Et puis, on m'a dit, bah, non, pas du tout, tu te contenteras de l'enseignement, c'est à peu près tout. Et j'ai dit, mais mon Dieu, mais l'enseignement, mais pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est là que je vais mettre les pieds en janvier 2012 dans l'enseignement en Anjou.
Mmh. Où ça? Dans quel lycée?
Alors, j'ai commencé en Anjou, quand je dis l'Anjou, dans les Pays de la Loire, parce que j'ai commencé au lycée Clémenceau à Nantes.
Ah oui, non, attention, ce n'est pas l'Anjou.
Non.
Nantes, ce n'est pas l'Anjou, c'est déjà la Bretagne. Restons en Anjou.
C'est vrai. Bon, Pays de la Loire, Bretagne, c'est vrai, la Bretagne. Oui. Et en Anjou, c'est-à-dire que très vite, je suis arrivée à Angers dans les lycées publics, et puis ensuite les lycées privé. Moi, sûr, j'ai fait le Segré 1, j'ai fait Cholet, j'ai fait Saumur. J'ai fait, c'est pas une belle expression, mais en tout cas, j'ai été dans des lycées publics et privés. Et fort heureusement, d'ailleurs.
Fort heureusement, parce que, alors pourquoi? Parce que déception.
Oui.
Vous vous croyez au paradis, oui. Dans l'éther de la pensée, et tout d'un coup, vous venez à la trivialité de l'enseignement. Mais et vous finalement, vous découvrez quelque chose.
Ah mais c'est complètement ça, j'avais un nombre de préjugés, mais indicibles, incalculables, ineffables, tout ce que vous voulez. Et je me disais, mais mon Dieu, jamais je n'enseignerai. Je l'ai dit lors de ma soutenance de thèse, ils m'ont dit, c'est une provocation et ça va très bien pour votre thème. Et je leur ai dit, mais jamais, jamais je n'enseignerai. Pour moi, c'est la mort de la philosophie, c'était la mort de la philosophie. Alors évidemment, c'était provocateur et c'était surtout ne pas avoir d'expérience que de dire ça de cette façon-là. Et j'arrive, et en dehors même de Nantes, pardonnez-moi, de revenir en Anjou, mais lorsque j'ai eu ce contact immédiat, comme dans une arène, avec les élèves et puis un peu plus tard avec quelques étudiants, je vais réaliser que j'ai mis les pieds, la tête, le corps, tout ce que vous voulez, mon âme, je l'ai laissé se nourrir de ces jeunes qui ne savaient pas ce qu'était la philosophie pour la plupart.
Et alors, cette rencontre avec ce public-là, qui est un public très particulier, un public qu'il faut initier, oui. Ça a duré combien de temps?
10 années, pratiquement 10 années. 10 années avec très peu de pauses. J'ai eu plusieurs postes. Et puis, les élèves que j'ai eus, franchement, que ce soit leur questionnement, leur provocation, que ce soit leur désintérêt même, me provoquaient. Ils m'invitaient à aller vers eux. C'est eux qui... Ils me donnaient envie de ne pas m'ennuyer, de ne pas leur répéter des choses assez triviales, finalement. Et j'ai réalisé que moi, provocatrice, aimant dans l'âme, choquée un peu, mais si c'est à bon escient, et avec toujours un minimum d'élégance dans les mots et dans l'attitude ou l'apparence, si je le peux, eh bien, je me suis rendu compte que ces élèves-là avaient envie qu'on leur parle de cette façon aussi, à condition qu'on les respecte également. Alors, ce n'est pas... Alors, évidemment, il y en a qui n'avaient aucun respect pour pas grand-chose. Je peux le comprendre, puisque ce serait oublier que moi-même, je me suis beaucoup ennuyée en terminale. Et je n'avais pas envie de faire... Comme nous le conseillait un peu Rimbaud, j'avais pas envie d'être sérieuse et d'imaginer qu'on était sérieux à 17 ans. Et donc, j'ai complètement compris qu'ils pouvaient ne pas s'y intéresser. Alors, j'ai tout donné et je me suis un peu donné en spectacle, ce qui les a amusés.
Et puis, un jour, la magie a plus fonctionné.
Oui.
Vous avez démissionné.
Oui.
Ça doit être un moment particulier, ce moment où on regarde en arrière. Et puis on se dit, ben non, c'est plus ça.
Oui, vous savez, c'est comme dans une histoire d'amour ou d'amitié. Vous savez, quand les limites ont été franchies, quand quelque chose ne se passe plus comme vous l'aviez rêvé, pensé, ou peut-être pas pensé, mais ça ne vous surprend plus. J'en étais venue à dire à peu près les mêmes choses, à rabâcher les mêmes anecdotes. Je ne me trouvais, moi, plus du tout intéressante. Alors que même si j'étais plutôt respectée dans ce métier-là et qu'on m'a encouragée à passer le concours, je l'ai eu, mais j'ai dit non, décidément, il faut que je m'écoute, il faut que je sois intègre et sincère avec moi, pardon, je me déplace du micro, intègre et sincère avec moi, je ne suis plus là, ce n'est plus ma place, il faut que j'aille vers ceux qui s'intéressent à la philosophie autrement.
Alors, si je vais, je vais partir de trois expressions.
Oui.
Médiatrice, pédagogue, passeuse de connaissances. Laquelle de ces expressions a votre préférence ?
Médiatrice. Il y a deux mots que j'entends tout d'abord. Hein. C'est les premiers qui me viennent comme ça. Il y a l'idée de médium au sens où je suis une sorte d'interprète entre ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Attention, je parle vraiment d'un point de vue rationnel et pas irrationnel. Donc, un auteur qui n'est plus, qu'est-ce qu'il nous laisse ? Et moi, je suis celle qui va essayer de l'entendre, de le comprendre, de le recevoir et de transmettre, traduire ce qu'il a eu à nous dire autrement qu'à travers des commentateurs. Bien entendu que je ne me mettrai jamais, non, certainement pas à la place des spécialistes, que ce soit de Montaigne, que ce soit d'Oscar Wilde, que ce soit d'Albert Camus, qu'il soit épicurien ou autre, peu importe, je veux dire par là, je ne vais pas me mettre à la place d'un spécialiste. Mais lorsqu'il s'agit de se mettre en face d'un public qui vient chercher quelques données, quelques impressions et quelques souffles simplement d'un auteur, à ce moment-là, oui, j'ai l'impression d'être un peu morte, un peu vivante, mais dans les plus beaux sens du terme, c'est-à-dire à moitié là, complètement là, dans un entre-deux qui est la meilleure, pour moi, traduction que j'ai trouvée pour donner une idée de ce qu'ils nous ont laissé et qui fait beaucoup de bien aujourd'hui.
Alors, si j'ai évoqué ces trois expressions-là, c'est que de l'enseignement, vous êtes passé à l'organisation de salons littéraires.
Oui.
Et c'est là que j'ai l'impression que vous êtes tombé dans la faille temporelle qui me permet de parler d'anachronisme.
Alors, oui.
D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un salon littéraire ?
Oui. Eh bien, alors, ce qui est intéressant, pour répondre assez rapidement à votre question, enfin, quand je dis rapidement, je vais y venir, je passe par un tout petit détour, c'est qu'à un moment donné, lorsque je me retrouvais pour faire le saut entre l'enseignement au lycée, au campus de Belle-Beille en particulier, mais surtout au lycée où je me trouvais à Angers, j'y arrivais de temps en temps avec des tenues. 19e, 18e siècle, parfois 17e.
C'est la tenue dans laquelle vous êtes entrée dans ce studio. Hein.
Là, c'est vraiment un effort un peu. Oui, oui, je reconnais, merci. Oui. Vous avez très bien vu. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que j'arrivais en tenue. Et mes élèves disaient, qu'est-ce que c'est ça ? Et évidemment, mes collègues aussi, mais ils avaient, surtout au lycée du Sacré-Cœur, hein, je les adore encore, et ils avaient beaucoup de... Il y avait cette tolérance. Même, ils disaient, bon, à partir du moment où elle fait son travail, c'est très bien. Et là, je me suis dit, et si tu t'adressais à un public en tenue pour créer un salon littéraire et philosophique, et là, je viens à la question que vous m'avez posée, c'est-à-dire que très naturellement, entre ceux que j'avais créés à Paris, au Quartier Latin, et ceux que je fais en Anjou, ce sont des salons totalement différents. Si le terme salon est encore celui qu'il faut, et je vous remercie pour cette question. Pourquoi ? Parce que, premièrement, à Paris, c'était vraiment ce qu'on appelle des salons littéraires, comme pouvaient les tenir Mallarmé ou Madame de Staël, on en reparlera, mais etc. C'était, voilà, j'accueillais chez moi au Quartier Latin et c'était, je recevais des personnalités connues, moins connues, et on parlait des ouvrages et j'organisais des dédicaces. C'était vraiment les salons comme on les imaginait il n'y a encore pas si longtemps et comme il en existe, certainement. Mais j'étais en tenue, certes, toujours le besoin d'être dans une sorte d'apparat qui masque temporairement le savoir. Mais la deuxième chose, c'est que lorsqu'il s'est agi grâce à une femme, et je tiens à la remercier, c'est une angevine, des origines de Saumur, mais c'est une angevine aujourd'hui, elle s'appelle Nathalie Gabriel, et cette femme-là, qui est venue à un de mes spectacles, s'est dit, il faut absolument que je l'aide à développer ça, et les salons ont pris une tournure beaucoup plus spectaculaire, non pas au sens beau, très beau du terme, mais au sens théâtral du terme. Les salons sont devenus, se sont théâtralisés et j'ai pris un comédien qui lit mes textes avec force et je peux écrire de temps en temps des scénettes que je peux jouer comme ça. Donc ce sont des salons pas comme je faisais à Paris, mais en Anjou, ils se sont transformés et ont évolué grandement. Je les reprends d'ailleurs après m'être occupée du théâtre.
Ça veut dire que vous mettez en scène pour faire entendre les textes, pour faire comprendre les auteurs, vous mettez en scène.
Oui, pour faire comprendre les auteurs, comme vous venez de le dire, on les prend avec. On prend avec nous les auteurs. Ce sont nos compagnons du pain mauvais ou moins mauvais, des jours de solitude qui demandent et exigent énormément de travail. Et ce que je veux dire, c'est que ces auteurs-là, lorsque je les donne à comprendre... Ah pardon, oui, vous avez raison. Vous voyez, je bouge beaucoup quand je parle, je le dis et je présente mes excuses aux auditeurs.
Il y a des commentaires en plus, elle fait des commentaires. Elle fait du théâtre, mais elle fait des commentaires en plus.
Pardonnez-moi, en tous les cas, oui, je bouge pas mal, mais ce que je voulais dire, c'est que lorsque je les mets en scène, il y a quelque chose d'autre qui surgit. Il faut d'ailleurs que je me tienne à un auteur et pas deux, sinon je mélange un peu trop de choses, mais lorsque je fais un auteur, je donne son souffle, je donne des idées qu'il a émises. Je ne suis pas totalement l'auteur, je suis un peu lui et je traduis quelque chose. Mais c'est vrai que la mise en forme qui est du genre théâtral va donner un spectacle qui peut-être va attirer l'attention autant une attention différente, autre que celle qui est simplement académique, qui a ses qualités aussi.
Est-ce que vous pouvez donner des noms d'auteurs que vous présentez ?
Oui, alors, par exemple, je vais présenter Léon Tolstoï au château de Malvignolles dans le Tarn, mais ça, c'est dans le Tarn, c'est parce que je...
Oui, c'est plus l'Anjou.
C'est plus l'Anjou.
Nantes n'est pas en Anjou, mais en le Tarn non plus.
Pardon, je ris, mais c'est vrai que ce sont des bonnes remarques, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en Anjou, je crois que c'est la région où il m'a été donné de présenter le plus grand nombre d'auteurs. Je pensais les connaître, donc par exemple, bien entendu Tolstoï aussi, c'est d'abord en Anjou, au château de la Perrière que j'ai fait. J'ai fait Madame de Sévigné au château de... En tout cas, dans le Segréen, Malicorne, pardonnez-moi. Chez moi, je fais régulièrement tous les mois un salon littéraire. Je vais présenter Verlaine. J'ai bien entendu fait Oscar Wilde, mais je peux faire autant les épicuriens que des thèmes sur la folie, voyez, ou sur la liberté. Donc, je travaille autant la philosophie que les littéraires, l'histoire et l'histoire des auteurs dans la grande histoire. Tout ça avec un comédien, souvent, en dehors de chez moi.
Alors, vous tenez salon, c'est ça qu'on disait à l'époque, tenez salon.
C'est le cas chez moi, oui.
Voilà.
À Saint-Rémy-la-Varenne.
Et puis, vous êtes fait une place dans le théâtre aussi. Hein. Vous êtes entrée dans le théâtre, c'était quand ?
Alors, le théâtre, vous savez, alors, d'abord... j'étais toute petite, vraiment très petite, lorsque j'ai eu la chance de voir à la télévision Les Rois Maudits.
Ah.
Et j'ai été prise de passion pour Jean-Pierre. Et j'ai été le voir à Paris plusieurs fois et je l'ai rencontré après le théâtre, c'est-à-dire cet homme absolument d'une grande culture. J'ai eu la chance qu'il me récite des poèmes de Lettres à Lou d'Apollinaire. Donc j'ai eu cette chance-là. Donc, merci à Jean-Pierre qui nous a quittés en 2018. Mais je me suis dit, il faut absolument que je puisse écrire des textes qui puissent être mis en bouche par des auteurs tels que lui et des auteurs, parce qu'il écrivait, mais des comédiens tels que lui, de cette envergure. Et pendant que je préparais ma thèse sur Oscar Wilde, je me suis rendu compte qu'en travaillant travaillant sur la façon dont on avait condamné Oscar Wilde et la façon dont on avait écrit toutes sortes d'articles pour essayer d'abréger ses souffrances en prison, eh bien, je me suis rendu compte que de nombreux auteurs en France n'avaient absolument pas pris sa défense. Et à ce moment-là, j'ai imaginé un salon littéraire sous forme théâtrale qui ont permis d'écrire ma première pièce, L'ombre d'Oscar Wilde.
Eh bien, avant d'entamer la deuxième séquence, on va faire une pause musicale.
Tu sais, moi, je donne ce que j'ai dans le sang, et souvent mon cœur consomme des litres au sang. Je suis pas économe, pas commerçant, et je crame tout comme l'adolescent.
Je suis rentré dans l'existence, peut-être pas dans le bon sens. Je me sens décalé, mais c'est sans importance. Faut marcher droit, je suis tordu. Âme de sorcier, corps de moldu. À la barre, j'ai pas mordu. Poisson volant contre courant, j'suis un corme. Je trace une route, voyage en soude. Je joue le jeu.
Enfoui depuis période collège, comme mon amour fut un manège. Quand tu m'avais tendu ce piège, t'avais disparu seulement pour moi. Et j'y ai cru de ma candeur. Maintenant mes phobies ont peur. Quand je suis sincère, c'est l'ascenseur. J'offre la corde de mon cœur. Et c'est un leurre. J'ai plus le cran de m'envoler. Avec les autres m'abandonner. J'ai le vertige des mésanges. Je suis tout en haut comme un étranger. T'as pris le temps que je voulais donner. Pour mes amis et mes amours. J'essaie de polir autrement, d'adoucir sur mon visage aride.
Je suis rentré dans l'existence, peut-être pas dans le bon sens. Je me sens décalé, mais c'est sans importance. Faut marcher droit, je suis tordu. Âme de sorcier, corps de moldu. À la part, j'ai pas mordu. Poisson volant contre courant.
Oublié parfois piétiné. Mes cicatrices me fait divers. Éclat de rire, éclat de verre. Dans toutes mes failles passe la lumière. Comme un Versailles je m'en sers. Pour ensuite les recycler. En mélodie, en mots-clés. Alors à tes pieds je dépose ce petit bouquet de névrose. Alors à tes pieds je dépose ce petit bouquet de névrose.
Poisson volant contre courant, j'suis un corme. Je trace une route, voyage en soute. Je joue le jeu.
Tu sais, moi je donne ce que j'ai dans le sang. Et souvent mon cœur consomme des litres au sang. J'suis pas économe, pas commerçant. Ouais, tu crames tout comme l'adolescent. Moi je donne ce que j'ai dans le sang. Et souvent mon cœur consomme des litres au sang. Je suis pas économe, pas commerçant. Ouais, je crame tout comme l'adolescent.
C'était Rouquine qui chantait Poisson volant dans Entre les pages. J'essaye de ne programmer que des artistes de l'Anjou. Et ce titre, c'est au départ, je voulais passer un titre d'un jeune homme qui s'appelle Théophile. Et puis, en faisant une recherche, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas d'actualité et que le dernier titre en ligne, c'est sa participation avec le groupe Rouquine. Et bien sûr, immédiatement, les émotions du 1er juillet dernier sont remontées avec la disparition brutale de Nino Vella. Ce titre, Poisson volant, bah, c'est une manière de dédicace et puis une manière d'adresser toutes mes pensées à sa famille. Et puis... au compagnon de route, Sébastien Rousselet. Vous écoutez Entre les pages, vous êtes bien sur Radio G, et vous écoutez l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps avec mon invité, Lou Ferreira. Avant la pause musicale, Lou, nous avons commencé à parler théâtre et à l'écriture du théâtre. Vous avez écrit plusieurs pièces.
Oui.
Rappelez-nous le titre de cette première pièce.
L'ombre d'Oscar Wilde. Voilà.
Donc là, c'était en fait l'envie finalement peut-être de allez, de venger Oscar Wilde du sort malheureux auquel il a été confronté?
Mais c'était surtout de mettre en lumière une pseudo-humanité que l'on trouvait dans les écrits de nombreux auteurs que j'adore, comme Jules Renard, comme Octave Mirbeau ou André Gide. Et je me suis aperçue que quelqu'un comme Jules Renard et d'autres n'avaient pas du tout, ou Émile Zola, n'avaient pas du tout signé la pétition pour la libération d'Oscar Wilde et que voilà, son homosexualité posait problème à l'époque. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une telle contradiction qu'il fallait, ça c'est ce qui me plaît, provoquer une réunion entre tous ces hauts personnages. Il y en a 8 sur scène et ça a été un joli succès au Théâtre du Nord-Ouest à Paris en 2012.
Parce qu'il faut le rappeler, Oscar Wilde a été condamné pour homosexualité.
Oui, pour fait indécent, dirons-nous.
Voilà. Comme d'ailleurs Alan Turing, presque 45 ans après, qui s'est retrouvé exactement dans la même situation. Et tous les deux, d'ailleurs, ont
payé d'une façon directe ou indirecte.
Ou indirecte.
Oscar Wilde, c'était directement.
Alan Turing s'est suicidé.
Oui.
Donc, on est dans une Angleterre qui est encore hyper conservatrice, élisabéthaine,
victorienne.
Victorienne. Donc, on était vraiment dans une époque dure et Oscar Wilde l'a pris de plein fouet.
Oui.
Pour préparer.
Pardon, j'allais dire, il l'a provoqué.
Oui,
il l'a provoqué. Il avait dit à André Gide, il faut que j'aille le plus loin possible et il faut que j'aille à l'encontre de cette société dite hypocrite. Mais il ne savait pas jusqu'où ça irait. Ça a touché toute sa famille.
Alors, pour préparer cette émission, je vous avais demandé si vous pouviez faire une lecture. Et je pense que le moment est parfaitement venu.
Très bien.
Vous avez choisi quoi?
J'ai justement choisi... la fin du De Profundis, un passage de la fin du De Profundis d'Oscar Wilde qui a été rédigé en prison rédigé en 1897. Il va faire ses 2 années de travaux forcés. Et voilà le texte, je peux le...
Allez-y.
Merci. Si, lorsque je serai libre, un de mes amis donne un banquet et ne m'y invite pas, cela me sera absolument égal. Je puis être parfaitement heureux, tout seul. Avec la liberté, des fleurs, des livres et la lune, qui ne serait parfaitement heureux? De plus, les fêtes ne sont plus rien pour moi. J'en ai beaucoup trop donné pour y prendre encore intérêt. Ce côté de la vie a pris fin pour moi. Fort heureusement, j'ose le dire. Mais si, lorsque je serai libre, un de mes amis était affligé, et se refuser à me laisser partager son malheur, j'en éprouverais la plus grande amertume. S'il me fermait la porte de sa maison endeuillée, je ne cesserais de revenir l'implorer, de me laisser entrer pour prendre la part de ce qui me revient dans sa peine. S'il me croyait indigne de pleurer avec lui, ce serait pour moi l'humiliation la plus poignante, la disgrâce la plus terrible qui puisse m'être infligée. Mais cela ne saurait être. J'ai le droit de prendre part à la douleur. Et celui qui peut contempler la beauté du monde, prendre part à sa douleur et concevoir la merveille de l'un et de l'autre, entre en contact immédiat avec les choses divines et est plus près du secret de Dieu qu'il puisse être donné à une créature humaine. Ce n'est pas l'ampleur, mais l'intensité qui est le véritable but de l'art moderne. Oscar Wilde.
Et voilà une déclaration enflammée d'Oscar Wilde. Et puis, ça nous donne une idée du personnage confronté. Parce qu'il faut bien se dire que ce qu'il a vécu est d'une cruauté terrible. Mais malgré tout, presque en dandy, fier, il ne bouge pas d'un pouce de sa position,
de ses principes esthétiques,
et de ses principes voilà. Alors ça c'est un texte. Vous avez écrit une pièce, vous avez écrit d'autres pièces, plusieurs autres.
Oui, 8.
Toujours en préparant cette émission pour essayer de savoir qui est Lou Ferreira, parce que je pense que ça intéresse tout le monde de savoir qui est Lou Ferreira. Je vous ai demandé de me faire une petite sélection, d'extraire quelques livres de votre bibliothèque. Alors, vous avez extrait... alors, si je dis que vous avez extrait un livre d'Oscar Wilde, personne ne sera surpris.
Non.
Mais c'est quoi de Oscar Wilde que vous avez pris, que vous avez retenu ?
Eh bien, pas son théâtre, que tout le monde connaît à travers Un mari idéal ou L'importance d'être constant, mais L'âme de l'homme sous le socialisme. Et c'est un texte ciselé, très puissant sur l'individualisme au sens noble, hein. On ne va pas philosopher aujourd'hui, on n'a pas le temps malheureusement, mais sur une sorte d'individualisme socialiste du 19e siècle, hein. Ce n'est pas le socialisme aujourd'hui qu'il préconisait, et puis d'autres principes, mais c'est merveilleux, de générosité et de lucidité.
Donc là, on entre dans un autre domaine qui est quand même le domaine politique.
Oui, absolument. Et contrairement à ce que je pensais, moi, de Wilde, en dehors même des problèmes liés à son homosexualité, il était navré qu'il y ait autant de... comment vous dire, que le travail abêtisse à ce point les humains au point qu'il n'ait pas jamais le temps de s'intéresser ou de produire de l'art. Et quand je dis de produire de l'art, ce n'est pas d'une manière utilitariste, ce n'est pas comme ça, produire quelque chose pour faire bien et pour se donner bonne conscience. Non, c'était pour laisser son être s'envahir d'imagination, de culture, aller chercher, comme je l'ai fait, moi qui viens d'un milieu ouvrier, aller par soi-même, aller chercher ce qu'il y a de plus beau, de ce qui nous touche, etc. Et voilà, c'est une défense pour l'art, bien sûr, mais pas forcément un art qui est lié à une classe sociale uniquement. Absolument pas.
Alors, Oscar Wilde, on a bien compris que c'était presque votre vie qui se jouait avec cet homme, hein, qui est mort en 1900. Enfin, faut le rappeler.
Oui, en 1900, la même année que Nietzsche.
Voilà, la même année que Nietzsche. Je vous avais demandé une liste, vous me l'avez faite, cette liste. Elle comportait 5 titres, 5 livres. Alors, si je devais faire une analyse structuraliste de cette liste,
oui,
de vos propositions, le deuxième nom, ça veut dire que ce n'est pas rien, la deuxième position.
Oui.
Hein. Alors là, vous m'avez pris de court complètement. Jim Morrison.
Oui.
Alors là, ce n'est pas les années folles, encore moins la belle époque. Alors, Jim Morrison... Expliquez-moi ça.
Alors, je vais dire Jim Morrison parce que j'ai été agréablement surprise. Bon, lorsque un film avec Val Kilmer a été, je ne sais plus comment, le mot ne vient pas, mais bon.
Le biopic,
voilà, sur Jim Morrison.
Les Doors.
Voilà, Les Doors, qui, ouais, a été fait en 1991 pour fêter les 20 ans de la mort de Jim Morrison.
Si commémoré, pas fêté.
Commémoré, si ça se fête. C'est pour ça que j'allais le dire, si ça se fête. Bon, peut-être. Mais en tous les cas, c'est l'occasion, en tout cas, de lui rendre hommage. Et je me suis aperçue, comme d'habitude, qu'en dehors de ses chansons, des textes et de la musique, et je me suis aperçue qu'il y avait ce recueil de poésie auquel il tenait énormément et qui a, ça a joué sur son départ, quand je parle de son départ, sur sa mort, sur la fin de la musique. Il était fatigué qu'on ne le prenne pas non plus au sérieux et qu'encore une fois, ce soit une apparence, tout comme Wilde, mais Wilde en a été responsable, et Jim Morrison aussi, avec cette allure très, voilà, un peu, qui reste un mythe aujourd'hui encore. Eh bien, il est tombé dans une sorte de piège de l'apparat et de l'apparence, et surtout de l'apparence, et on a peu écouté les textes et la poésie de Jim Morrison, inspirée en grande partie, d'abord il adorait Oscar Wilde, qui est un Irlandais comme lui, mais surtout, il adorait les poètes français du 19e.
Alors pour donner une idée, vous parlez de Jim Morrison, moi c'est moi qui vais faire une lecture.
Ah, belle surprise.
Et je vais faire une lecture d'un poème de Jim Morrison. Alors je ne vous cache pas que moi j'ai été ébloui par les textes que j'ai lus, mais ce texte tout particulièrement, qui s'appelle « Chacal ». Chacal, nous reniflons les survivants des caravanes. Nous recueillons les récoltes sanglantes des champs de bataille. Nos ventres creux ne sont privés d'aucune viande, d'aucun cadavre. La faim nous conduit sur des vents parfumés. Étrangers, voyageurs, regarde-nous dans les yeux et traduis l'horrible aboiement des chiens antiques.
Et
voilà, alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah oui, on passe à côté de beaucoup de choses dans notre vie, finalement.
Absolument.
Et ça, c'est Jim Morrison, alors qu'on pourrait penser à des poètes symbolistes, justement, à Mallarmé, fin 19e, début 20e. Oui, tout à fait. Ça, c'est donc deuxième, Jim Morrison. Alors, je ne cacherai pas aux auditeurs que dans vos listes, si on recherche bien, il y a aussi Eminem, mais ça sera le sujet d'une autre rencontre. Les deux livres suivants, Montaigne pour les essais et Nietzsche pour le gai savoir. Là, on revient à la philosophie pure. Quel plaisir de lecture y a chez ces deux auteurs ?
Alors, la première, pour ce qui est de Montaigne, il est aussi littéraire pour moi. Et ce que j'adore, et il y a en vérité, ce que j'aime dans votre émission, c'est que quand vous demandez et avez posé la question sur ces cinq ouvrages, finalement, on ne se rend pas compte, nous, auteurs qui sommes invités dans votre émission, si je puis dire, eh bien, on ne se rend pas compte qu'il y a un véritable sens, même dans un choix immédiat. Et lorsque j'ai choisi Jim Morrison, je veux dire, avec Montaigne, il y a un sens. Montaigne avait horreur de la pédanterie, il avait horreur de tout ce qui se prenait au sérieux, il avait horreur de ceux qui considéraient, alors qu'ils étaient dans l'opulence, dans la culture, mais également dans cette façon d'aller chez l'occupant et de brûler les terres. Et d'ailleurs, le texte de Morrison nous fait un peu penser à ça. Eh bien, il disait, mais quelle différence il y a un peu entre guillemets, le sauvage dans son bonheur simple, et puis ceux qui colonisent nos terres. Donc, que ce soit sur le plan humaniste, sur le plan intellectuel, sur le rapport à la philosophie, Montaigne est tout ce que j'aime.
Et Nietzsche ? Alors, Nietzsche, le gai savoir. Alors, depuis de nombreuses années, Nietzsche, c'est la référence philosophique essentielle. C'est-à-dire qu'on... tout le monde se revendique nietzschéen. Là, vous avez choisi le gai savoir. Alors, pour m'être confronté à Nietzsche, je peux dire que ce n'est pas la lecture la plus simple.
Non.
Donc, quel plaisir y a, par exemple, dans le gai savoir ? Et je parle de plaisir de lecture.
Oui. Eh bien, il y a un point commun avec... Avec Wilde, alors bien sûr, non, un petit, tout petit point commun.
Ils sont morts la même année.
Ils sont morts la même année, à 3 mois d'intervalle, et j'en ai fait une pièce qui s'appelle « Pour l'éternité ». Et ils se retrouvent dans l'au-delà. Mais en dehors de ça, Nietzsche, bon, le gai savoir, j'ai pris ce titre-là, mais c'est parce qu'il se situe à une période charnière Ainsi parlait Zarathoustra, ou par-delà le bien et le mal. Il y a le gai savoir, mais on retrouve toutes les thématiques chères à Nietzsche. Et bien sûr, on y retrouve la mort de Dieu. Non pas, il ne dit pas qu'il ne croit plus en Dieu ou quoi que ce soit. C'est la mort de Dieu au sens où on a tué ce qui était au-delà de ce que l'homme doit trouver par lui-même, la transformation de soi par soi. Il y a également, je devrais développer, mais il y a tous les thèmes et les rhétoriques, enfin les thèmes liés aux religieux qu'il condamne, c'est-à-dire cette autoflagellation de l'humain qui culpabilise d'un point de vue moral. Il y a énormément de choses à dire sur le gai savoir, mais c'est cette nécessité de se transformer soit par soi et non pas avec des béquilles morales, religieuses ou autres, et grâce en partie également à l'art. C'est-à-dire que quand il dit, et je terminerai vite sur ça, pardonnez-moi, quand il dit « nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ou du réel ou de la réalité », alors on peut continuer à vivre. Alors que ce soit Jim Morrison, que ce soit Oscar Wilde, que ce soit Nietzsche et Montaigne, vous voyez, que ce soit la philosophie ou l'art, on retrouve cette envie de ne pas complètement se prendre au sérieux, mais faire les choses sérieusement liées à l'art.
En finir avec la moraline.
Oui, absolument, absolument.
Et puis, dernier choix, alors, c'est la seule femme de la liste.
Oui, il y en aurait
choix,
beaucoup, mais...
Oui. Mais il n'y en a qu'une.
Il y en a qu'une,
il y en a certainement beaucoup, mais il n'y en a qu'une. Donc, pour
oh là
terminer,
là, les femmes vont m'en vouloir.
Pour terminer,
et les hommes.
Madame de Staël, avec alors un titre étonnant, Vous avez choisi Corinne ou l'Italie.
Oui.
Alors, d'abord, pourquoi Madame de Staël? Je pense comprendre, mais vous allez y répondre.
Oui.
Puis après, pourquoi ce roman, quoi? Alors, pourquoi Madame de Staël?
Oui, alors, pourquoi Madame de Staël? Eh bien, écoutez, j'avais, moi aussi, Lou Ferreira, des préjugés concernant Madame de Staël. J'avais bêtement, dans mon imaginaire, quelques ouvrages un peu superficiels sur la politique, voilà, la fille de Necker, bon, peu importe. Et puis, il se trouve qu'heureusement, on m'a demandé de faire un salon un jour sur Madame de Staël. C'était quelques ancêtres sur, enfin, qui étaient liés à sa famille. Et, enfin, des ancêtres, pardonnez-moi. Des descendants, décidément, je voyage dans le temps, même
oui,
en parlant.
Là. C'est presque une émission de science-fiction qu'on est en train de faire.
Uchronie. En tous les cas, Madame de Staël, je découvre qu'elle est à l'origine tout de même de la pensée, pas à l'origine, mais elle a beaucoup, beaucoup travaillé sur le libéralisme moderne, sur, en tout cas sur le plan politique avec Benjamin Constant. C'est énorme ce qu'elle a fait. Et Corinne ou l'Italie, je me suis dit, mais mon Dieu, ce titre mièvre en apparence, je me suis dit, mon Dieu, je vais m'ennuyer. Eh bien, écoutez, pas tant que ça. Parce que il y a, faut pas oublier tout de même, c'est la fin du 18e, et donc c'est une femme qui est vraiment très moderne, mais aujourd'hui encore, je veux dire, j'ai pas beaucoup, rencontré beaucoup de femmes qui aujourd'hui qui ont sa trempe, et à la fois au niveau de la pensée, au niveau de l'écriture, j'en connais pas beaucoup, et d'ailleurs je ne demande qu'à les connaître si elles m'entendent, qu'elles se fassent connaître pour qu'on en parle. Mais Corinne Ouglitali, c'est une vraie, c'est l'exposition d'un savoir phénoménal, mais également une très belle histoire d'amour, et aussi une femme qui s'appelle Corinne, qui ne renie en rien son amour du beau et des arts, encore une fois.
Donc vous ne bougez pas d'un pouce, hein, vous Vous restez sur la même ligne, ça...
Oui, il faut être fidèle à...
Il faut être constant.
Il faut être constant, oui. Fidèle, même à travers les époques, à travers les sexes, à travers les histoires. Mais il faut en tout cas être en accord avec ce qu'on a toujours dit que l'on ferait et que l'on dirait qu'on ferait. Dans une sorte de performatif, quoi. Mmh. Mais ce que je dis, je le fais, mais enfin, ce serait un peu long. On n'a pas assez le temps pour le développer, mais je veux être authentique, oui. Ça, c'est important.
Mmh. Alors, on vient de voir un peu... on a fait un grand panoramique hein, du doctorat en philosophie à l'écriture de théâtre, au salon, et aussi à votre sensibilité littéraire, à vos goûts littéraires. Vous tenez salon, vous avez des salons. Est-ce qu'il y a des prochains salons qui vont se tenir?
Alors, chez moi en particulier, à Saint-Rémy-la-Varenne, dans le hameau de le lieu-dit de Chauvigné, donc il est juste magnifique. Moi, je pensais que, vous voyez, en quittant Paris, je m'ennuierais absolument en Anjou. Eh bien, écoutez, non, c'est dans un hameau qu'on se le tienne pour dit, dans un hameau un peu perdu en Anjou, que je réalise le plus beau des rêves. Donc, je vais faire Paul Verlaine, puis ensuite, je ferai Shakespeare au mois de novembre. Et en décembre, j'ai décidé de faire Charles Trenet, parce que c'est le mois... voyez, je me promène un peu quand même au XXe siècle.
Vous êtes très certainement constante, mais vous êtes aussi très, très ouverte à toutes les sensibilités.
Absolument.
Apparemment.
Absolument. Alors, le jour où je parlerai de ma sensibilité vis-à-vis d'Eminem, je vais choquer du monde, mais pourquoi pas? C'est très waldien, ça.
je serai sans doute obligée de vous réinviter. Cette émission, elle va se terminer.
Ah, merci.
En tout cas, cette première partie d'émission va se terminer. Moi, je vous remercie, Lou Ferreira, d'être venu dans la grande ville, hein, d'être sorti de votre hameau pour venir
merci
me voir. Je vous souhaite un bon retour. Et puis, je vous dis sans doute à bientôt.
Merci infiniment, vraiment. White cork
on the edge of empty, here I am surrounded.
Je viens de vous faire écouter Here I Am, chanté par Mathilda Monique, un titre que je devais passer dans la dernière émission, mais le temps a manqué, alors je me rattrape. Vous êtes toujours bien sur Radio G, vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Je vous propose de retrouver la nouvelle chronique de l'émission, lue et approuvée. C'est tout simple, un invité qui défend un livre. Qui est l'invité du jour ? Prénom.
Romain.
Nom.
Mallet.
Activité professionnelle.
Je travaille à l'université dans les sciences.
Goûts musicaux.
Assez vaste.
Implication associative.
Je suis vice-président de l'association Imaginaire.
Goût en termes de littérature.
Littérature de gare, moi.
Quel livre vous voulez défendre aujourd'hui ?
C'est pas de la littérature de gare. Je pense avoir choisi La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole à cause du festival Cultissime, qui m'a fait réfléchir à la notion d'œuvre culte. Parce que quand ils ont lancé ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une œuvre culte ? Moi, je pense qu'une œuvre culte, c'est ma définition assez proche du culte au sens religieux du terme, c'est-à-dire une minorité de personnes qui adorent vraiment une œuvre. Une œuvre, par contre, qui déplaira à la grande majorité du reste de l'humanité. Donc on n'a pas tous cette définition-là. Pour moi, Harry Potter, c'est pas une œuvre culte.
La Conjuration des imbéciles, ça parle de quoi ?
Ça parle surtout d'un personnage que je considère comme un sociopathe dans son petit quartier de la Nouvelle-Orléans au début des années 60. On y croise une galerie de personnages assez caricaturaux. J'adore ce livre parce que Ignatius Reilly, c'est vraiment un personnage culte, même je pense. J'ai vu qu'il avait une statue maintenant à son effigie à la Nouvelle-Orléans. C'est un personnage clivant, comme ce roman. C'est le livre qui m'a fait le plus rire dans ma vie, je pense, à sa lecture. Je l'ai lu, moi, à une époque où je travaillais à Paris. Donc je lisais dans le métro et je piquais des crises de fou rire dans le métro. Donc ça, c'est aussi un souvenir pour moi qui est lié à ce livre, hein. Du coup, après, je l'ai énormément acheté. Je pense que c'est le livre que j'ai plus offert aussi. Jusqu'au jour où je l'ai offert à mon oncle qui m'a dit « Mais ce livre est horrible. Pourquoi tu m'as acheté ça ?»
L'humour de John Kennedy Toole, il est où ?
Dans la caricature des personnages. Et pour moi, l'intérêt de ce livre, c'est le décalage entre ce personnage principal que je considère comme un sociopathe. Parce que moi, je pense qu'il ne comprend pas énormément la société en fait, qui l'entoure. Notamment parce qu'il l'aborde, hein, il est quand même assez snob. Je pense qu'il plie la réalité par rapport à son propre point de vue. Pour moi, c'est peut-être la source de rire la plus grande dans ce livre. C'est de voir la description d'un monde et ses interactions avec le monde qui l'entoure, alors que nous, on a le regard du lecteur, on sait à quoi ressemble ce monde et la réalité. Le personnage principal délire de plus en plus dans sa conception biaisée du monde, jusqu'à atteindre une mauvaise foi, qui est quelque chose que j'adore. J'adore quand des gens autour de moi, dont je sais qu'ils mentent, s'enferment en fait dans leur délire de plus en plus. Ça me fait toujours rire, moi.
On parle de cynisme avec La Conjuration des imbéciles.
Ouais.
Mais le cynisme, il est où ? Il est chez Ignatius ou il est chez John Kennedy Toole ?
Je pense qu'il est chez l'auteur, parce que pour moi, Ignatius ne se rend pas vraiment compte en fait de la réalité qui l'entoure. Il est toujours dans sa propre réalité. Je pense pas que ce soit un personnage vraiment cynique. Il est nostalgique d'une époque ancienne et révolue. Il déteste le monde qui l'entoure. Je pense que ça peut parler à pas mal de gens qui se sentent pas vraiment dans leur époque ou qui voient en fait la société qui les entoure devenir quelque chose qui ne leur plaît pas, quoi.
Qui est John Kennedy Toole ?
Alors, je pense que ça amplifie quand même vraiment l'aspect culte de l'œuvre. John Kennedy Toole, qu'est-ce qu'il faisait? Je pense qu'il était dans les lettres, il me semble qu'il était prof. C'était aussi un écrivain amateur. Quand il a écrit La Conjuration des imbéciles, il devait avoir vers 25 ans, je crois. Il était conscient pour lui d'écrire un chef-d'œuvre. Et devant le refus des éditeurs, il est devenu dépressif et il s'est suicidé. 10 ans plus tard, sa mère, qui pensait aussi, hein, comme son fils, hein, qu'il avait écrit un chef-d'œuvre, a quand même réussi à le faire parvenir le document au cœur précis, Percy, qui est lui publié chez Rivage, chez nous. Là, Walker Percy, qui était aussi prof, il me semble, à l'Université de la Nouvelle-Orléans, au bout de la lecture du roman, il s'accroche quand même et se dit « Ah oui, effectivement, c'est un chef-d'œuvre, on va le publier ». C'est publié, je crois, aux presses universitaires de la Nouvelle-Orléans. Et un an plus tard, il reçoit le prix Pulitzer. Et là, bon, bah, y a quand même un buzz. Et le livre est devenu culte aujourd'hui. Il s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. Je ne sais pas si sur la planète, en 50 ans, c'est un... je pense que c'est un bon chiffre. Peut-être c'est un chiffre d'œuvre culte.
Pourquoi faut-il lire aujourd'hui La Conjuration des imbéciles?
Alors moi, je dirais pour mourir de rire. Sachant quand même qu'effectivement, c'est un humour qui est clivant. Le personnage principal, on peut vraiment le détester. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été jusqu'au bout du livre parce qu'ils ont trouvé ça peut-être cynique. Alors, il y a le fait de ne pas pouvoir du tout s'identifier en fait, avec ce personnage principal qu'on peut trouver détestable. Moi, j'avoue que j'ai des amis, je pense, qui sont des sociopathes, qui ont un peu d'Ignatius en eux. Donc, c'est peut-être pour ça que j'aime ce personnage quand même. J'aime aussi sa négation du monde qui l'entoure finalement. Est-ce que ce n'est pas un acte politique? Il refuse l'autorité.
On rappelle les références?
John Kennedy Toole, La Conjuration des imbéciles, au domaine étranger en 18. Je pense que c'est réédité de temps en temps.
Merci Romain Mallet.
Merci Luc.
Alors, ce conseil de Romain, il doit réveiller des souvenirs à certains d'entre vous. Mais pour l'heure, Entre les pages, c'est terminé. Quelques informations sur le monde des livres en Anjou. Vous informez du lancement d'une nouvelle revue de littérature qui s'appellera Zinzac ou Zinzac, et c'est ce soir, mercredi 25 septembre à 19h à la librairie Myriagone à Angers. Relayez le projet de la Miel 49 qui se lance dans une grande aventure. Organisez un festival intitulé l'International Poétique au mois de septembre 2025. Si vous voulez en être une ou un des acteurs, je vous donne leur courriel internationalpoétique49@gmail.com. Vous rappelez que je serai samedi et dimanche prochain au Festival Cultissime qui s'installe à l'Hôtel Dieu Saint-Jean du côté de la Doutre à Angers. Cultissime est un festival international qui déclare sa flamme aux œuvres cultes. Du très beau monde à l'affiche, hein, rien moins que le Dog, autrement dit James Ellroy himself, pour présenter son dernier polar, mais aussi Marc Millar ou l'immense Jean Van Hamme. Et Entre les pages fera table commune avec deux autres émissions, La Case de Seb et Imaginaire. Cela me permettra de vous offrir pour la prochaine émission une interview de Douglas Kennedy pour son dernier livre Ailleurs chez moi et une interview de Pierre Bordage, le monsieur SF français. Et pour terminer, vous rappelez, mais est-ce bien nécessaire, que le dernier numéro de La Topette, votre journal local, populaire et indiscipliné, est en rayon depuis 15 jours avec un sommaire toujours aussi réjouissant. Au cours de l'émission, vous avez entendu Rouquine qui a chanté Poisson volant et Mathilda Monique qui a chanté Here I Am. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 9 octobre à 17h. Si tout s'est bien passé au Festival Cultissime, vous entendrez les interviews de Douglas Kennedy et Pierre Bordage. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Et puis, vous retrouverez le magazine Topette, animé par Pierre Benoît. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.